Alléluia. Quelle grâce de pouvoir partager ensemble le Saint-Livre, le message de l'Évangile. Au début, il y a une pensée dans notre cœur. Pour ceux qui ont l'habitude un peu de préparer des messages, c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop ce que l'on va dire. Et puis, presque des fois, même, on est un peu frustré parce qu'il y a une pensée précise, mais voilà. On vous donnerait juste la pensée et puis on partirait, que ça serait peut-être plus simple parfois. Et puis au fur et à mesure, finalement, je me rends compte que il y a beaucoup de choses à dire. Et tant mieux, parce que ça prouve que le Seigneur nous remplit. Et c'est important pour nous, comme on le partageait tout à l'heure avec un frère, que nous puissions être remplis pour pouvoir apporter ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur. La parole de Dieu nous dit très clairement que Dieu est un Dieu d'amour. Et tous les hommes, toutes les femmes, toutes les créatures devraient entendre ce beau message, que Dieu est un Dieu d'amour, que Dieu aime ses créatures. Il nous le dit noir sur blanc dans sa parole. Non seulement il le dit, mais l'a prouvé. Nous l'avons rappelé encore ce matin au travers des cantiques, au travers du partage de la Sainte-Cène. L'apôtre Paul dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a donné une preuve irréfutable de son amour pour nous. Lorsqu'il a décidé d'envoyer sur la terre des hommes Jésus-Christ, son Fils, son unique. Fallait-il qu'il nous aime, mes frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, pour qu'il sacrifie ce qui était de plus cher à ses yeux? Pourquoi? Pour que nous puissions être sauvés, libérés du péché. Et le beau message de l'Évangile, c'est encore ce rappel de la croix, où Jésus a accepté volontairement, on en reparlera tout à l'heure, librement, la Bible dit, il s'est livré lui-même dans un acte volontaire, a donné sa vie pour nous, pécheurs. Dieu a accepté que son Fils meure sur la croix du calvaire, afin que nous puissions devenir ses enfants. Et ça, c'est peut-être une grâce et un privilège que nous devons nous rappeler. L'apôtre Jean déclare ceci, « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu dans 1 Jean au chapitre 3 et au verset 1er. Celui qui manifeste un tel amour pour ses créatures, au point de pouvoir choisir à un moment donné de nous appeler ses enfants, ne peut que vouloir notre bonheur. Et je voudrais que nous soyons, déjà dans cette introduction, pétris de cette pensée. Je ferai peut-être une analogie ce matin, j'espère qu'elle ne sera pas très lourde, entre la relation qui peut exister entre un père, ses enfants, une mère avec ses enfants, des choses qui nous sont peut-être un peu plus communes. Je me permets cette analogie parce que je voudrais que vous compreniez que ce Dieu d'amour qui a tellement témoigné de l'affection qu'il porte sur nos vies, que chaque jour, en fait, il veut notre bonheur. Et Jésus dira lui-même ceci, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? » C'est un verset dans Matthieu 7, verset 11, qui est donné par le Seigneur Jésus dans le contexte de la prière. « Demandez et vous recevrez. » Quand Dieu est devenu véritablement notre Père, nous pouvons dire comme le psalmiste, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie dans le psaume. Ah, vous l'avez reconnu. C'est difficile, hein ? Psaume 23, verset 6. Le croyons-nous ? Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Ce Dieu qui non seulement a dit qu'il nous aimait, mais qu'il a prouvé, veut notre bonheur. Et notre bonheur, déjà ici-bas sur la terre, et bien sûr, comme cela a été rappelé tout à l'heure, dans l'éternité, pour les choses célestes qu'il nous a promises. Croyons-le. Jésus a dit lui-même, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Croyons-le. Nous sommes loin d'imaginer à quel point le Seigneur, jour après jour, prend soin de nos vies. Nous devons le réaliser. Je voudrais faire une lecture avec vous dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25, c'est parce que j'ai mis le verset 22, je l'ai souligné en rouge, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Verset 29, jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Dieu nous aime, il nous le dit, il nous l'a prouvé, et il veut notre bonheur. Il nous a appelés ses enfants, et jour après jour, il y a un contexte de l'Église, mais bien sûr de tous les rachetés, il nous nourrit, et il prend soin de nous. Réalisons-le, mes frères et mes sœurs. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, son amour est rentré dans nos cœurs. L'apôtre Jean dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Et c'est là que j'en arrive au message que je voudrais partager avec vous ce matin, à cette pensée si forte dans mon cœur. Si nous l'aimons, vous comprendrez, et je pense que vous réaliserez, que cela nous encourage les uns et les autres à montrer aussi à notre tour une preuve évidente de notre amour pour lui, de notre véritable attachement pour lui. Si nous l'aimons, nous voulons réjouir son cœur de père. Nous voulons que nos vies se manifestent par une recherche incessante. Je répète, si nous l'aimons véritablement, Nous voulons que nos vies se manifestent par une recherche incessante de ce qui plaît à notre Seigneur. Et c'est le titre de mon message ce matin, « Plaire au Seigneur ». Et pour cela, combien je vous exhorte, je vous encourage à lire ce livre si précieux, la Bible, la parole de Dieu. Si vous voulez connaître et savoir ce qui plaît au Seigneur, lisez la Bible. Le Seigneur nous dit clairement les choses qui réjouissent son cœur. Soyons très clairs ensemble, dès le départ. Il ne s'agit pas pour nous de chercher seulement ce qui déplaît au Seigneur, parce que des fois on se cache, vous savez, vers cette pensée, je ne fais pas ceci ou je ne fais pas cela. Mais nous allons dans une dimension plus profonde ce matin. Je cherche à faire ce qui lui plaît, ce qui réjouit son cœur. N'avons-nous pas le désir d'être dans nos vies, par nos comportements, nos paroles, nos attitudes, un sujet de joie dans le cœur de notre Père? Vous savez, petite analogie très simple, mais nous l'avons lu dans Éphésiens, il y a cette analogie en tout cas entre l'amour de Christ avec l'Église et de l'homme envers la femme. Et je crois que c'est peut-être très naturel au début du mariage, au début où on est ensemble, peut-être plus difficile après avec les années, et peut-être c'est bien aussi de nous le rappeler. Il y a une certaine réciprocité de l'un envers l'autre pour chercher ce qui plaît à l'autre, ce qui lui fait plaisir, ce qui va réjouir son cœur. Et dans notre relation avec Dieu, c'est sûr, ce n'est pas la même relation de couple, puisque nous ne sommes pas d'égal avec Christ et nous-mêmes. Mais quelque part, cette pensée était forte dans mon cœur. Si nous l'aimons, si nous sommes devenus ses enfants, si nous réalisons véritablement, comme nous l'avons partagé, que Dieu chaque jour prend soin de nous, qu'il nous nourrit, que son intention c'est que nous vivions heureux ici-bas sur la terre et pour l'éternité, nous aussi, nous sommes ses enfants, nous l'aimons et nous voulons plaire au Seigneur. Amen. J'ai retenu trois aspects. Je vous dis, il faudrait lire toute la Bible. Ça va faire un peu court en temps, mais faites-le chez vous. Lisez la Bible. Ne vous contentez pas surtout de ces moments, même s'ils sont très précieux, que nous pouvons partager ensemble. Vous l'avez chez vous, tous les formats que nous avons aujourd'hui. Nul ne peut dire, il y a certains pays encore, certains ne l'ont pas dans leur langue. C'est absolument inimaginable. Combien de Bibles avez-vous chez vous? Combien de versions sur nos ordinateurs, smartphones, partout? Et pourtant, peut-être, si peu la lisent et la méditent. Si vous voulez connaître et savoir ce qui plaît au Seigneur, plongez vos regards dans la parole de Dieu. J'ai retenu trois aspects que je vais partager avec vous tout simplement, mais il y en a beaucoup d'autres, mais ils me semblent principaux quand même. On va lire un premier texte dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 6. Trois réalités qui plaisent vraiment au Seigneur. Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Hébreux 11, verset 6, un verset que l'on connaît très très bien. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et c'est vrai, ce premier aspect de notre vie avec Dieu, elle peut être, c'est vrai même la première démarche, et c'est ce premier point que je veux partager avec vous, nous approcher de lui par la foi. Aucun autre moyen de s'approcher de Dieu que par la foi. Regardez juste un peu avant, au chapitre 10, et le verset 38. Dans la même pensée, chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Ne prend pas plaisir en lui. » Alors cela peut-être peut nous dire que cela doit interpeller des hommes et des femmes qui doivent s'approcher de Dieu. Ça fait peut-être partie de tout ce qui est de la conversion et de la repentance. Mais je crois aussi que nous, peut-être chrétiens de quelques semaines, de quelques mois, de longue date peut-être pour certains, nous avons besoin peut-être de nous rappeler qu'il est impossible de s'approcher de Dieu autrement que par la foi. Et c'est ça qui lui est agréable, que nous puissions toute notre vie. Pourquoi je dis des chrétiens de longue date ? Parce que nous avons quand même ce livre de l'apôtre Paul aux Galates qui nous montre clairement qu'on peut très très bien commencer, marcher par la foi et revenir à la loi. Et vous savez, parce que l'apôtre Paul non plus ne mâche pas ses mots, vous savez quelle déchéance cela peut amener, puisqu'il dira « Vous êtes déchus de la grâce ». On peut avoir bien commencé, mais ce qui est important, c'est jusqu'au bout, comme l'a rappelé notre frère dans les Cantiques, jusqu'au bout, nous voulons être debout, toujours agréable à notre Seigneur, réjouir son cœur de Père, lui plaire tout simplement, parce que nous marchons par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Toute la Bible nous révèle que le seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est par la foi. C'est de croire en lui, de lui manifester une totale confiance. Vous savez, les hommes ont cherché divers moyens. C'est impressionnant l'ingéniosité qu'ils ont mis, d'ailleurs, pour s'approcher de Dieu. Mais une chose est certaine, qui que nous soyons, nous devons savoir que même si nous consacrions toute notre vie pour des choses fort honorables, même si aux yeux des humains nous paraîtrions comme les personnes les plus justes et les plus méritantes, si nous refusons de croire quand Dieu nous parle, nous ne pouvons pas lui plaire. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus, la foi, elle naît dans notre cœur, par la parole. Il vient dans notre vie. Nous apprenons à mieux le connaître. Notre confiance en lui, elle grandit. Notre foi, elle s'affermit. Nous sommes heureux de marcher avec lui et de le suivre. C'est cela qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à notre Seigneur, c'est une vie de foi qui ne soit pas basé sur des rites ou sur des traditions, mais sur une vie de foi fondée sur l'amour que nous avons pour lui. C'est ça qui plaît au Seigneur. L'apôtre Paul ira dans ce chapitre 13 d'un Corinthien dire « Mais même si je parlais les langues des hommes et des anges, mais même si j'avais la foi pour transporter une montagne, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » C'est important pour nous de réaliser que ce qui plaît à notre Seigneur, ce qui réjouit son cœur de Père, c'est que constamment dans notre vie, nous nous approchions de lui uniquement par la foi. Je disais que je prendrais cette analogie de parents avec des enfants. Qui se satisferait d'une relation avec son enfant qui serait basée que par des habitudes, des traditions, des rites, mais qu'il n'y ait pas de communion entre les parents et l'enfant. Qui se contenterait d'une telle relation ? Notre Père, ce qui lui plaît, c'est une vie de communion avec nous. La foi, l'amour sont deux domaines totalement indissociables. D'ailleurs, l'apôtre Jean dit ceci, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. » Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère dans 1 Jean au chapitre 4, versets 20 et 21. Gardons ce verset dans notre cœur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Deuxième point, je m'y attarderai un peu plus, c'est du costaud. C'est du costaud parce que toute la Bible nous parle que de ça. Le moyen de plaire à Dieu, le moyen de plaire à notre Père, de réjouir son cœur, c'est d'avoir un cœur obéissant. Aïe, aïe, aïe. Oui ? Ça vous va ? On peut y aller ? Jean, chapitre 14, verset 20. C'est dans le contexte de la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, Jean chapitre 14, verset 20, Jésus dit ceci, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Regardez au chapitre 15 et au verset 10. Là, il faudrait lire vraiment tous les chapitres, mais je prends que des versets. 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et regardez le verset 14 du même chapitre. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Quel parent n'a pas eu le désir ou n'a pas le désir profond d'avoir des enfants obéissants ? Qu'ils lèvent la main. Combien de fois n'avons-nous pas essayé de mettre nos enfants sur le droit chemin ? Nous avons essayé de leur expliquer, ou pas. Ils n'ont souvent pas compris le fond de notre intention. Mais nous avons cherché, par tous les moyens, à les rendre obéissants. Disons-le de suite, cette obéissance, elle revêt certains aspects que nous allons partager de suite. Elle n'a rien à voir, absolument rien à voir, avec toute forme de despotisme ou de tyrannie. Je fais une petite parenthèse, mais c'est souvent comme cela aussi que la religion a été présentée. Et quand je parlais tout à l'heure de l'intention de Dieu sur notre bonheur tous les jours de notre vie, je pense aussi à celles et ceux qui ont peut-être quitté nos églises, peut-être parce qu'ils n'ont gardé que ce concept d'un Dieu tyrannique, tellement exigeant, que nul sacrifice n'était suffisant pour lui. Cela n'a rien à voir avec ce que nous partageons dans le domaine de l'obéissance. Toute la Bible nous révèle combien Dieu prend plaisir. Toute la Bible nous révèle combien Dieu prend plaisir à l'obéissance de ses enfants. Depuis le jardin d'Éden, où l'homme n'a pas su garder ce cœur fidèle au commandement que l'Éternel lui avait donné, en passant par toutes les nombreuses infidélités du peuple d'Israël à la loi de Dieu, jusqu'à même à la naissance de l'Église, nous voyons constamment que Dieu prend plaisir, Dieu est réjoui dans son cœur chaque fois qu'il trouve de l'obéissance dans ses enfants. Mais attention, cette obéissance revêt divers aspects, et j'en partage juste deux importants avec vous ce matin. Le premier aspect, c'est que cette obéissance, ça doit être une obéissance en acte, une obéissance pratique. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 7, verset 24. des textes très connus. Ça fait des piqûres de rappel pour certains, mais c'est peut-être important aussi pour ceux qui ne l'avaient jamais lu, de lire ces versets sur ces fameuses deux maisons et nous interroger peut-être comment la nôtre est fondée. Quand on voit certaines inondations et comment les eaux parfois, il est bon d'avoir une maison sur de bonnes fondations. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Une obéissance en acte, entendre la parole et surtout la mettre en pratique. Vous faites la différence entre les deux? Oui? Ça, je vous ai endormi, non? Si vous ne faites pas trop la différence, vous le relisez. Et si vous ne faites pas encore la différence, vous le relisez une autre fois. Là, vous avez bien la distinction entre écouter la parole de Dieu, être des auditeurs, comme vous l'êtes, à demi endormi, non, ça va. Et pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. Un autre texte dans Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, verset 28, c'est la parabole des deux fils. Que vous en semble ? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Vous avez déjà entendu, vous, les enfants, dire des choses ? Non, non. Ensuite, il se repentit. Et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Verset 31, « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, écoutez cette parole du Seigneur Jésus, « Je vous le dis en vérité, les publicains, et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. » Petit clin d'œil à ce que nous avons partagé dans le premier point. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi, la disposition de notre cœur. Vous ne vous êtes pas repentis pour croire en lui. Dans le royaume de Dieu, ce qui compte, c'est l'obéissance, non pas l'intention d'obéir, ni la promesse de le faire. Mais ce qui est important, c'est le faire, c'est l'acte. Même s'il vient, et c'est ce que nous dit cette parabole, après une période de résistance, où nous avons résisté, ce qui est important, c'est à un moment donné d'avoir cette décision dans notre cœur et d'obéir. Il faut savoir dans ce contexte que quand même Jésus s'adresse à des chefs religieux. Ils font croire qu'ils obéissent, mais en réalité, ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Et Jésus a dit d'eux, « Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. » Si Jésus a dit ceci, c'est que leur enseignement était correct. « Faites tout ce qu'ils vous disent, mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et ils agissent d'une autre. » N'oublions pas, et c'est pour ça que j'ai peut-être été un peu pesant dans mon introduction, c'est que Dieu veut notre bonheur et que c'est pour notre bien, comme nous le faisons pour nos propres enfants, même s'ils ne le comprennent pas encore. Plus tard, quand ils ont eux-mêmes des enfants, ça va mieux. Hein ? C'est pour notre bien que Dieu nous adresse tous ces commandements. Et nous ne devons pas, j'insiste sur ce point, nous ne devons pas les vivre comme une liste de règles et de prescriptions, mais nous devons les vivre comme une conséquence tout à fait normale de notre attachement à lui et de notre désir de lui plaire et de lui obéir. Et aussi préciser quand même, c'est important, que c'est une grâce d'obéir. C'est dommage que dans le domaine de l'obéissance, peut-être encore plus particulièrement dans la société dans laquelle nous vivons, mais aussi dans le royaume de Dieu, chaque fois qu'on parle d'obéissance, il y a quelque chose d'extrêmement, peut-être difficile à partager, peut-être des choses plutôt négatives, alors qu'en définitive, c'est une grâce d'obéir. Et en définitive, si nous pouvons même le faire, c'est uniquement par l'œuvre et par la puissance de Jésus-Christ dans nos vies. Jésus a dit ceci, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » Dans Jean au chapitre 15 et au verset 5. Un cœur obéissant, c'est ce qui plaît à notre Père céleste, c'est ce qui réjouit son cœur. Je vous ai un petit peu décortiqué ce premier aspect, c'est une obéissance en acte, mais c'est aussi un autre aspect, une obéissance de cœur. L'apôtre Paul aux Romains a dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Vous pouvez noter ce verset dans Romains chapitre 6, verset 17. C'est ce deuxième aspect de l'obéissance, une obéissance en acte, pratique, et aussi, c'est important je crois de le partager, c'est surtout aussi une obéissance de cœur. Ce qui plaît à notre Seigneur, c'est que le moteur de notre obéissance, ce soit notre cœur. Notre cœur. Je voudrais préciser quelque chose d'important. Jésus a dit ceci. Petite parenthèse, il est pour nous un exemple parfait de tout ce que nous partageons ce matin. Quand nous voyons la relation qu'il unissait à son Père. Jésus a dit ceci, « Je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Si vous voulez noter ce verset dans Jean au chapitre 5 et au verset 19. Jésus est certainement pour nous l'exemple parfait de l'obéissance au Père. Nul doute là-dessus. Mais soyons très au clair. Jésus n'était pas un robot qui faisait mécaniquement la volonté de son Père. Il était comme nous. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre, soumis à toutes les tentations auxquelles nous pouvons être soumis. Et son obéissance au Père était une résolution de son cœur, un acte de sa volonté, de sa propre volonté, de plaire à son Père. On l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 5, il s'est livré lui-même. Dans un autre verset, il est dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes dans Philippiens chapitre 2 et au verset 7. Dieu a voulu des hommes et des femmes qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et aussi de toute leur force. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas pour nous être comme des robots et de fonctionner d'une manière très mécanique, mais Dieu, ce qui lui plaît, c'est que nous choisissons délibérément. Ça vient du plus profond de notre cœur, de lui plaire et de lui obéir. J'insiste sur ce point, parce que parfois, dans l'exemple que nous prenons de Jésus ou dans l'application que nous voulons faire de la parole de Dieu, parfois, il peut y avoir une sorte de mimétisme et nous ne comprenons pas peut-être quelle est la part de notre volonté en tant qu'humain. Parce que nous avons une volonté propre, que d'ailleurs Dieu respecte. C'est pour cela qu'il y a tant d'invitations et tant même de verbes à l'impératif dans la parole de Dieu. Efforcez-vous. Travaillez, faites fructifier votre salut, parce que Dieu respecte notre propre volonté. Mais ce qui plaît à notre Seigneur, ce n'est pas de dire, voilà, j'ai plus de volonté, Seigneur, tu fais ce que tu veux de ma vie, et que nous agissions presque d'une manière mécanique. Je crois que la vie avec Dieu, et en tout cas c'est ce que Dieu veut, c'est une volonté sanctifiée, une volonté qui est même valorisée, pour que quand nous venons à lui et que nous décidons de nous conformer à sa parole, c'est une délibération de notre cœur, de notre propre volonté. Aucune pression extérieure, mais un élan de notre cœur pour lui plaire et pour lui obéir. J'avais noté, on n'aura pas le temps de le regarder, mais notez-le dans Genèse au chapitre 22. Nous avons aussi cet autre exemple, je parlais de Jésus, mais aussi d'Abraham. D'ailleurs, c'est intéressant ce passage, parce que lorsque Abraham a reçu ce commandement de l'Éternel d'offrir ce qu'il avait de plus cher, son fils Isaac, il nous est dit, je l'ai noté au verset 3, il nous est dit qu'il se leva. Et ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, une obéissance en acte. Il a entendu la parole et l'a mis de suite en pratique. Et le deuxième aspect, c'est quand l'Éternel, vous savez, il va pratiquement jusqu'au dernier moment laisser Abraham obéir à la parole qui lui avait été donnée. Et à un moment donné, Dieu, dans sa bonté, arrête l'ange et dit ceci, « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et plus loin, il est écrit ceci, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Tous ces versets dans Genèse au chapitre 22. Nous avons là une démonstration de l'obéissance de cœur qui réjouit, qui donne de la joie dans le cœur de notre Père. Abraham a prouvé qu'il ne suivait pas l'Éternel pour ses bénédictions, puisqu'il était prêt à offrir la plus grande des bénédictions que Dieu lui avait données, son fils Isaac. Mais il a prouvé que son cœur était entier pour le Seigneur, disposé à lui plaire, à lui obéir en acte et dans le cœur. Que son nom soit béni. Ce texte nous a aussi permis... J'étais un peu long sur l'obéissance, mais je vous avais prévenu. C'était un gros morceau. Et si nous sommes honnêtes avec la parole, vous êtes d'accord avec moi que l'obéissance est un thème majeur. Si nous voulons plaire au Seigneur, le titre de notre message, nous avons partagé dans le premier point que nous devions nous approcher de lui par la foi. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Ce deuxième point que nous avons partagé de l'obéissance. Et je voudrais terminer par ce troisième point. Et il est aussi un petit peu dans ce texte de Genèse 22. Ne cherchez pas, mais quand Dieu dit « Je sais que tu crains Dieu ». Et notre frère l'a rappelé dans la présentation de la Sainte-Seine, on n'avait pas communiqué ensemble, hein, mais il y avait cette pensée très forte de la Sainte-Seine, saint. Ce qui plaît à Dieu, c'est aussi la manière dont nous pouvons nous approcher avec cette crainte respectueuse. L'Éternel a dit à Abraham, « Je sais que tu crains Dieu. » On peut lire un verset quand même dans Actes 10, verset 34. Actes 10, verset 34. Quel parent n'est pas réjoui dans son cœur d'avoir un enfant qui le respecte et l'honore? Ça aussi, c'est certainement un sujet difficile à partager dans notre société actuellement. Le respect. « Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Amen. Avoir une crainte respectueuse, une révérence pour lui. Un autre verset de la parole de Dieu dit que le respect du Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse dans Proverbes chapitre 1er et verset 7. C'est difficile aujourd'hui dans notre société. Notre frère l'a dit, était dans la même pensée. Il n'y a plus de respect pour les choses de Dieu. Je me souviens, ça va faire un petit peu comme si j'étais très âgé. Mais je pense, ça sera plus juste. Qu'à une certaine époque dans notre société, il y avait peut-être une religion de façade, mais il y avait une distinction entre le sacré et le profane. Et je crois qu'il y avait, même si ce n'était pas quelque chose de très, très profond, en tout cas dans les cœurs, il y avait un respect pour les choses sacrées. Aujourd'hui, vous êtes dans la famille, dans les médias, au travail, n'importe où. On se moque, on rit de Dieu. Il n'y a plus du tout de respect pour l'Éternel, notre Dieu. La notion de respect, elle touche aussi sur la relation des hommes entre eux. Ça aussi, c'est... Nous qui sommes ses enfants, je reviens sur ce que j'ai dit au départ, il nous a aimés, il veut notre bonheur au quotidien de notre vie, il nous a appelés ses enfants, nous l'aimons en retour, donc nous voulons lui plaire, réjouir son cœur. Nous qui sommes ses enfants, nous devons avoir ce profond respect dans notre cœur de notre Père Céleste. Et merci à notre frère d'avoir partagé effectivement ce texte particulier de ce feu étranger qui a été apporté. Mais il y a d'autres textes dans la parole qui nous montrent comment Dieu attend de chacun de nous et ce qui réjouit son cœur. C'est vraiment qu'il y ait cette crainte et ce profond respect dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre Église également, dans nos comportements, nos attitudes, que tout témoigne du profond respect que nous avons pour lui. L'Éternel a dit ceci au peuple d'Israël: « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dans Deutéronome chapitre 10, verset 12. Et je peux vous assurer que cette attitude de cœur, elle lui plaît vraiment. Il y a même une fierté, je parlais des parents avec les enfants. Cachons pas les mots, quand ils sont éduqués dans un certain cadre, il peut y avoir une certaine fierté dans notre cœur. Et je dis ça parce que quand on lit les premiers chapitres de Job, on a l'impression que Dieu, il est fier de Job. Et Job, il était présenté par l'Éternel comme un craignant Dieu, s'éloignant du mal. Vous retrouvez tous ces passages dans les premiers chapitres de Job, ça plaît à son cœur. Et je voudrais terminer peut-être par un exemple. On va le lire ensemble dans Luc 23. Regardez avec moi. Luc 23, ce qui plaît à Dieu, c'est d'avoir une crainte respectueuse dans notre cœur. Il y a l'exemple de ce brigand, Luc 23, au chapitre 33. Il est dit ceci, Luc 23, chapitre 33, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurier, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. L'attitude de ce malfaiteur a réjoui le cœur du Père, à tel point qu'il a été admis dans le paradis ce jour-là, cette attitude de foi, de confiance qu'il a eue vis-à-vis de Jésus, et aussi cette attitude qui est là, tu n'as, comme il le dit, ne crains-tu pas Dieu, dans une autre version, la version Semeur, il est dit, tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi pourtant qui subis la même peine. Ce témoignage en tout cas, que ce qui plaît à Dieu aussi dans notre vie, c'est de vivre uniquement par la foi dans notre proche avec lui, c'est de vivre dans l'obéissance, une obéissance pratique, une obéissance de cœur, et c'est aussi d'avoir cette crainte respectueuse. Je conclus ainsi, Dieu veut notre bonheur. Croyez-le, croyez-le, pas parce que je vous le dis, mais parce que la Bible nous le dit, nous l'avons lu, il la nourrit, il en prend soin jour après jour. Dieu veut notre bonheur. Et il suffit de lire le sermon sur la montagne pour voir comment Dieu nous invite sur le chemin du bonheur. Heureux celui qui, heureux, heureux, heureux. Dieu veut que nous marchions sur ce chemin de bonheur alors que nous vivons parfois au milieu de tant de souffrances. Dans la foi, avec obéissance, avec respect, nous voulons lui plaire. Ce n'est pas la mentalité de notre monde, c'est complètement à l'opposé, dirais-je. L'apôtre Paul dit ceci, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Amen. Prions-le un instant. Éternel, notre Dieu, ensemble, nous sommes d'accord pour te bénir pour ta parole. Combien chaque fois nous voulons te remercier de nous l'avoir laissée. Peut-être aussi te demander pardon pour la négligence que nous avons parfois. Ou peut-être aussi pardon pour la mauvaise compréhension de tes commandements et de tes préceptes qui ne sont que source de bénédiction pour nos vies. Nous ne valons pas mieux parfois que nos propres enfants qui n'obéissent pas. Aide-nous, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté. Affermis nos résolutions, Seigneur. Que ce ne soit pas juste un feu de paille qui s'éteint lors même que nous sommes sortis de ce lieu. Mais au contraire, Seigneur, que ce feu embrase notre cœur. Que tu nous aides par l'action de ton esprit, parce que sans cela, nous ne pourrons pas. Que tu nous aides à réaliser, Seigneur, que si nous t'aimons véritablement, nous devons chercher jour après jour à te plaire. Nous voulons réjouir ton cœur, malgré nos manquements et nos faiblesses, Seigneur. Alors nous crions à toi ensemble ce matin, que de la croix, cette source de vie coule dans nos cœurs, Seigneur, afin que nos résolutions, Seigneur, puissent réjouir ton cœur, parce que ce sera des résolutions pratiques, des résolutions de cœur. Seigneur, notre approche de toi, Seigneur, d'un cœur aimant qui vit en communion avec toi. Seigneur, merci. Merci de nous aider les uns et les autres. Et si au milieu de nous ce matin, il y avait quelqu'un qui n'avait pas fait la paix avec toi, qu'il puisse tout simplement saisir par la foi cette réalité, Seigneur. Crois en moi et tu auras la vie. Amen.